Eugénie Pradez. Justine. Chapitre 1. Le paysan murmura. C'est plus la même. Elle a beau dire. Un seau plein pendu à chaque bras, le dos voûté, oscillant de droite et de gauche, Justine gravissait lentement la pente qui conduisait de la fontaine à la maison de son frère. À chaque pas, l'eau trop secouée, criblant de petits trous la poussière blanche du chemin, jaillissait en inondant les gros souliers de la porteuse. C'était une vieille paysanne, carrée d'épaules, tout en muscles et en os, et bien que sans chair, corpulente et massive. Elle avait des traits charnus et une figure rougeaude. Les cheveux roussâtres, rares et courts, ramenés de force sur la nuque, s'y tordaient en un maigre chignon broussailleux. Le menton sur la poitrine, les jarrets tendus, Justine avançait péniblement. Sous l'effort grandissant, son souffle se précipitait. Absorbée par son labeur et tout occupée à atteindre le but, ne regardant ni à droite ni à gauche, elle n'avait pas vu François. Arrivée au sommet, elle posa lourdement son fardeau. « Ouf, il est temps !» Et la main dure, aux articulations noueuses, essuya le front ruisselant. La tâche la plus rude de la journée accomplie, le reste irait tout seul. Et Justine, l'esprit soulagé, se détendait, attendant pour reprendre sa charge d'avoir retrouvé tout son souffle. Mais tout à coup, elle saisit l'anse de ses seaux et se remit en route. Elle venait enfin d'apercevoir François qui descendait à sa rencontre pour l'aider. Elle repoussa l'offre d'un coup d'épaule et bougonna, mécontente, « Laissez-moi faire ça, je fais assez seule. » Depuis un an environ, Justine, restée jusqu'à ses 70 ans robuste et vaillante, déclinait rapidement. Mais l'obstination d'une volonté tenace avait survécu à son ancienne vigueur. Elle cachait ses lassitudes et ses défaillances. C'est ainsi, du reste, qu'elle avait toujours accueilli les misères physiques, réussissant à en triompher debout, sans les trahir à personne. À François, surtout, elle les dissimulait scrupuleusement. Mais depuis un an, les choses avaient changé. Sans qu'elle pût dire d'où lui était venu ce visiteur inconnu, une nuit d'hiver, un mal s'était abattu sur elle. Cela était arrivé très brusquement, et elle s'était dit, comme toujours, « Ce n'est rien, ça passera, faut pas y faire attention. » Mais cette fois, le mal n'avait pas voulu la quitter. Il s'était installé pour tout de bon, et tout ce qu'elle avait tenté pour le déloger de force avait échoué. C'était comme une crampe aiguë partant du talon pour aboutir à la hanche. Les jours humides, elle devait, pour circuler dans la cuisine, s'agripper partout. Et à hauteur d'appui, la muraille, crépie à la chaux, gardait la trace de ses gros doigts, presque toujours mouillés. C'était un badigeon graisseux, allant s'épaississant chaque jour. Il y avait 10 ans que Justine, libre d'emploi au moment du veuvage de son frère, était venue tenir la maison et élever les 2 orphelins, Anna, fillette de 9 ans, et Joseph, qui avait coûté la vie à sa mère. Aînée de la famille, Justine était beaucoup plus âgée que François, et tout de suite, elle avait mené la maison à sa guise. François avait accepté l'autorité presque toujours grondeuse de sa sœur. Quand les enfants étaient atteints de quelques misères enfantines, Justine, ayant contracté auprès de son père et de sa mère l'habitude des malades, les soignait scrupuleusement. Sa dévorante activité la rendait aussi une précieuse auxiliaire dans la maison. Le père la laissait donc faire à son gré, lui confiant sans inquiétude la surveillance des enfants. Elle les élevait à sa façon, sans expansion ni gâterie, guidé par un respect inné de l'esprit de famille plutôt que par des élans du cœur. En échange de ses services, François donnait à sa sœur le vivre et le couvert, plus l'entretien de deux vastes prairies qu'elle possédait aux environs et que la maigreur du sol rendait coûteuse à mettre en valeur. Depuis plus de 10 ans qu'elle était chez son frère, Justine avait considérablement grossi ses économies. Quand, à la fin de la saison, elle touchait le revenu annuel, son visage, si souvent bourru, s'épanouissait. Dans les yeux clairs, une flamme de joie passait. Elle s'essuyait soigneusement les mains, prenait la petite liasse entre le pouce et l'index et, sans un mot, l'emportait dans sa chambre. Jamais François, toujours à l'affût cependant, n'avait pu découvrir si elle gardait la somme chez elle ou si elle l'expédiait mystérieusement au dehors. La première année, étonné qu'elle ne lui demandât aucun conseil, il l'avait questionnée de but en blanc. « Alors, cet argent, qu'est-ce que tu vas en faire ?» La figure de Justine s'était brusquement courroucée. « À qui est-ce qu'il est cet argent ? À toi ou à moi ?» François ne s'y était plus frotté, mais il avait raconté l'incident à ses frères, Vincent et Antoine. Vincent, l'aîné, savait depuis longtemps que Justine ne parlait à personne de ses affaires, et, n'étant plus accoutumé aux bourrades de sa sœur, il les évitait le plus possible. Mais Antoine, le cadet, curé de la paroisse, ne craignait pas les sorties de Justine. Parce qu'il était prêtre, elle n'osait pas le rabrouer comme elle rabrouait Vincent et François. Les serviteurs de l'église étaient des êtres à part, qu'il ne convenait pas de faire taire avec une rebuffade. Et bien des fois, Antoine, voyant sa sœur s'accrocher partout pour marcher, lui avait conseillé de quitter la place lucrative qu'elle occupait chez François pour venir vivre avec lui à la cure. Aussi clairement que si elle les eût exprimées tout haut, il saisissait les pensées qui s'agitaient sous le front bas et têtu de sa sœur. Et à sa proposition, il ne manquait jamais d'ajouter « Tu pourras boire à ta soif et manger à ta faim, sans débourser un sou. » Mais Justine laissait tomber l'offre, sans y répondre un mot. Refoulant la colère que faisait naître une immixtion aussi directe dans ses affaires privées, elle se réfugiait dans le silence. Seule la brusquerie de ses mouvements trahissait l'irritation intérieure. Antoine, affligé de son impuissance en face d'une obstination que les circonstances de Justine et son âge transformaient en un inutile esclavage, s'en allait, découragé. Justine, tout en ne cédant pas au conseil de son frère, le craignait et le respectait. Elle l'honorait parce qu'il portait la robe, et elle l'admirait à cause de sa générosité. Indifférent aux questions d'intérêt, Antoine donnait largement, et ce détachement des biens de la terre avait, pour la sœur possédée de la passion d'amasser, quelque chose de miraculeux et presque de divin. Antoine était le seul être qu'elle redoutait un peu. Ce soir-là, quand le travail fut fini, François monta à la cure. Ce n'était pas la première fois qu'il allait consulter son frère au sujet de Justine, et tout de suite, en l'apercevant, le prêtre pressentit du nouveau. Sur l'étroite banquette qu'il occupait devant la cure, il fit place aux visiteurs et s'informa. « Qu'est-ce qui t'amène si tard ?» François se gratta un moment la nuque. Il cherchait à formuler sa plainte sans y rien mettre d'acrimonieux. Il dit enfin. Voilà ce qu'il y a. L'eau à la fontaine. Justine ne peut plus aller la chercher, c'est fini. Et quand on a l'air de s'en apercevoir, fichtre, tu la connais. Ce matin, parce que je voulais l'aider à porter le seau, fallait voir sa colère. Je fais assez seule, qu'elle a dit. Quand on ne peut plus pourtant. Le prêtre regardait le disque enflammé du soleil achevé de s'effondrer. Comme si derrière la ligne ondoyante des monts, L'astre apercevait de merveilleuses contrées qu'il avait hâte d'atteindre, il précipitait sa course. Bientôt il eut disparu. Le prêtre se retourna et dit « Si nous la brusquons aujourd'hui, François, plus tard nous le regretterons. Il faut patienter. » C'était un homme de 50 ans à peine, grand, mince, au corps souple sous la soutane flottante. La figure glabre semblait taillée à angle droit dans un bloc de marbre, mais les yeux, au regard lointain, avaient comme une brume de pitié, de bienveillance, de douceur. François protesta. « Qu'est-ce qui parle de la brusquer? Est-ce que je n'ai pas assez patienté jusqu'ici? Tout ce que je te demande, c'est de lui parler raison. Elle t'écoute mieux que les autres. Tu lui dirais qu'avec sa part d'argent et les prêts qui rapportent bien, elle a de quoi vivre à l'aise. Et puis tu lui dirais que pour ma peine, je ne lui demanderai que ce qui est raisonnable, parce que c'est ça surtout qui la tracasse, de devoir me payer mon temps et ma peine. Mais j'ai mes enfants, moi, tandis qu'elle n'a personne. Et que, pour un liard de ce qu'elle a, personne, ni grand ni petit, ne l'a jamais vue. » La figure régulière du prêtre se contracta légèrement. Il se leva et dit « Il fait froid depuis que le soleil a disparu. Viens, marchons un peu. Je t'accompagnerai un bout de chemin. » Et il se mit à marcher à grands pas, comme si, par ce beau soir d'été, il avait vraiment froid sous l'étoffe mince de la soutane. Mais très vite, il ralentit son allure et reprit le ton tranquille. « Ce qu'il faut, François, c'est savoir où est le devoir. Je ne suis pas encore au clair, moi, mais demain je le serai. » François, conscient que ses propos sur Justine avaient déplu à son frère, mais convaincu néanmoins qu'en les tenant, il était dans son droit, répondit « Il ne faut pas oublier, Antoine, que je suis seul à porter le fardeau. » « Je ne l'oublie pas. En tout cas, je viendrai demain parler à Justine. Sur ce point, tu peux compter sur moi. » « Tu viendras? Ah bon, alors, j'avais compris que tu ne voulais pas. » « Pourquoi? Est-ce que je t'ai dit ça? » « Non, pas exactement, mais il me semblait que l'idée ne te souriait pas. » Antoine ne répondant rien, il ajouta « En tout cas, je te remercie, parce qu'aujourd'hui, la vie avec Justine n'est pas commode, je t'assure. Où qu'on la touche, on se pique. » Les deux hommes se séparèrent. D'une allure lente, le prêtre rétrogradait le chemin parcouru, réfléchissant. Le cas en lui-même était parfaitement clair. François ne cultiverait pas les prés pour rien, et Justine, tant qu'elle pourrait se tenir debout, ne consentirait jamais à payer les frais. Là était la difficulté. Tout en marchant, il songeait, ne comprenant rien à cet amour de l'argent pour l'argent, et stupéfait de voir cette fièvre d'amasser subsister si forte chez Justine, à un moment de la vie où l'avenir ne lui promettait plus rien. François, lui, avait ses enfants. Ce qu'il économisait lui servait à payer l'apprentissage de couturière qu'Anna faisait à la ville, tandis qu'à la maison, Joseph, malingre de naissance, était plutôt un fardeau qu'une aide. Et François ne reprochait jamais à son fils son peu de robustesse, tandis qu'il arrivait souvent à Justine, lorsque le petit garçon se plaignait, sans cause suffisante à ses yeux, de le malmener durement. Elle n'admettait pas que, sans bonne raison, il demeurât dolent et inactif, et elle le pourchassait de paroles rudes et moqueuses. Cependant, quand la maladie le terrassait pour tout de bon, elle le soignait avec cette sollicitude attentive qui était chez elle une sorte d'instinct très puissant, où le sentiment n'entrait presque pour rien. Et malgré sa rudesse, Anna et Joseph, qui l'avaient souvent vue à leur chevet, ne la craignaient pas trop. Quelquefois, quand elle se reposait devant la maison, le soir, et qu'ils étaient encore enfants, ils venaient s'asseoir doucement à côté d'elle, comme si un grand besoin de tendresse les travaillait, et que l'instinct les fit chercher la mère sous cette enveloppe féminine. Mais toujours déçus dans leur attente, ils la quittaient bientôt. Ils allaient s'asseoir un peu plus loin et restaient blottis l'un contre l'autre, jusqu'à ce que Justine vînt les chercher pour les mettre au lit. Quand il atteignit la cure, le prêtre avait repassé toutes ces choses dans son esprit. Son parti était pris. Entre la cupidité instinctive de Justine et la lésinerie plus motivée de François, il n'hésitait plus. Mais, parce qu'il était bon de cœur, la mission de parler à Justine lui pesait lourdement. Il aurait préféré débattre la question avec François. Le devoir se dessinait ailleurs. C'était l'âpre convoitise de Justine qui était la passion coupable, et c'était elle qu'il fallait combattre. Le lendemain matin, comme Justine, un seau à chaque main, descendait vers la fontaine, elle vit venir le prêtre. Elle s'arrêta aussitôt. Aujourd'hui, que le petit trajet constituait la plus rude épreuve de la journée, elle ne voulait à aucun prix remonter sous les yeux de son frère. La pente qu'autrefois, alerte et vigoureuse, elle gravissait sans s'en apercevoir. Le visage déjà échauffé par l'effort du travail matinal, campée aussi fermement que possible sur ses jambes incertaines, elle attendait. Mais le prêtre la salua de la main sans s'arrêter. Elle demanda « Tu n'entres pas ?»« Pas maintenant, mais je ramènerai Anna de la ville ce tantôt, et alors j'entrerai un moment, parce que j'ai quelque chose à te dire, Justine. À tout à l'heure. » Elle le regarda s'éloigner, méfiante. S'il avait quelque chose à dire, pourquoi ne le disait-il pas tout de suite? Elle ne comprenait pas ce que cela pouvait être, et l'inquiétude de cet inconnu lui mit une petite piqûre au cœur. Elle reprit ses sauts et descendit le chemin en clopinant. Elle avait bien besoin, en vérité, d'un nouveau souci, comme si, sans s'en plaindre à personne, elle n'en avait pas plus que sa part. Cette nuit-là, en effet, sa jambe l'avait beaucoup fait souffrir. Soit qu'elle l'étendît, soit qu'elle la replia, le mal persistait. C'était comme s'il y avait, entre le talon et la hanche, des cordes douloureuses, très tendues, qu'une main invisible s'amusait encore à tirer. Et ce n'était pas tout. Depuis quelques jours, elle avait découvert, juste au-dessus de la cheville, faisant un creux dans l'enflure coutumière, une toute petite blessure, venue là sans qu'elle sût comment. C'était une tache ronde, de la grosseur d'un centimètre, d'où la peau avait complètement disparu, sans qu'elle se souvînt avoir reçu à cette place un coup, un choc, un heurt quelconque. Et ce mal, au lieu de se calmer, comme l'autre dans la chaleur du lit, s'y exaspérait. Il devenait intolérable comme la brûlure d'un fer rouge. Le sommeil troublé s'enfuyait jusqu'au matin. Elle remonta très péniblement le raidillon. Bien que la journée fût belle et chaude, des vapeurs flottantes encapuchonnaient les sommets, et il y avait dans l'air trop pur une transparence d'humidité latente. Justine pensa « C'est à cause de la pluie qui se prépare, ça passera. » Et ayant toujours fait face à ces maux, elle reprit courage, donna un dernier coup de collier et atteignit le petit plateau, où, comme la veille, elle déposa son fardeau. Mais pour que François, quand il rentrerait, n'eût à se plaindre d'aucune négligence, la halte fut très courte. Elle rentra et se mit activement au travail. La matinée s'écoula. Elle dressait le couvert quand elle vit entrer Vincent avec sa fille Angèle. Bien que Justine fût très surprise de voir des visiteurs arriver de la ville le samedi, jour de grand labeur, elle les reçut bien. Étant chez son frère, elle était volontiers hospitalière aux gens du dehors, ne pleurant pas le surcroît de besogne que les passants lui apportaient. Angèle ôta son chapeau et s'installa. C'était une noiraude, à la peau brune, aux pommettes frottées d'un incarnat sombre. Ses yeux noirs charbon brillaient sous des sourcils broussailleux. Elle ne disait rien, promenant autour d'elle un regard inquisiteur, vide de pensée. Vincent alla pendre son chapeau derrière la porte, puis il vint s'asseoir à côté de sa fille. La grosse moustache cachait l'expression des lèvres, mais une certaine intelligence animait la petite prunelle mobile et fuyante. Assis côte à côte, le père et la fille, les mains sur les genoux, regardaient Justine se démener autour du fourneau. Ils se carraient sur leur siège. Ils avaient l'attitude de gens venus là, avec l'intention arrêtée de ne pas s'en aller de sitôt. Sans interrompre ses préparatifs, Justine demanda « Alors, qu'est-ce qui vous amène par ici un samedi ?» Vincent se frotta longtemps le menton sans répondre. Peu loquace par nature, il préférait toujours écouter ce que disaient les autres que bavarder lui-même de choses inutiles. À la fin, cependant, comprenant qu'Angèle ne dirait rien, il se décida. « Il paraît que ça ne va plus ici, ma pauvre Justine. Alors voilà, je suis venu voir ce qu'il en était. » Justine abandonna ses casseroles. Elle s'était retournée tout d'une pièce. Le visage écarlate de colère, elle confrontait son frère. « Qu'est-ce qui ne va plus ici? Dis-le vite, hein? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Angèle, les yeux écarquillés, recula sa chaise. Depuis sa toute petite enfance, sa tante Justine lui avait toujours fait peur. Si elle avait consenti à accompagner son père ce jour-là, c'est qu'elle avait cru Justine au fond de son lit, bien malade. Son père lui ayant dit « Ce serait peut-être une place pour toi, Angèle, puisque tu n'aimes pas la couture, et qu'Anna tient au métier. Faut aller voir. » Elle l'avait suivie, curieuse de ce nouveau possible, rompant la monotonie de sa vie d'apprenti. Vincent ne répondant pas assez vite, Justine s'impatienta. « Mais qu'est-ce qui ne va plus ici? Le diras-tu à la fin ?» Vincent balbutia. « Voyons, Justine, faut pas te fâcher ainsi pour rien. Le bruit a couru que le travail ici devenait trop dur pour toi. Il n'y aurait pas de honte à ça, tu as l'âge. Mais je vois bien que ce n'est pas vrai et que tu es encore d'attaque. » Justine eut le rire froid qu'elle avait dans les moments de vive contrariété. « Trop dur pour moi, le travail ici? Et qui donc a pu la faire courir, cette bêtise-là ? » Vincent ne voulut pas trahir le prêtre, qui avait parlé dans la pitié de son cœur, et qui ne lui pardonnerait ni la trahison, ni la démarche qu'il était venu tenter. Il dit « Les bruits, ça vient on ne sait d'où, et ça court droit devant soi comme le vent. » Justine ne répondit pas. La douleur de sa jambe devenait si forte qu'elle ne pouvait presque plus la cacher. Sentant moins le mal quand elle remuait, elle allait et venait autour du fourneau, évitant, pour ne pas se trahir, de s'accrocher partout comme elle en avait l'habitude. À la fin, cependant, le mal devint si intolérable qu'elle s'assit lourdement. Et tout de suite, pour distraire d'elle l'attention de Vincent, elle demanda « L'apprentissage d'Angèle finira en même temps que celui d'Anna, avant l'hiver, n'est-ce pas ?» Il y eut un assez long silence. Enfin, convaincue que son père lui laissait cette fois l'obligation de répondre, Angèle se décida. « Eh bien, oui, on aura fini ensemble. Ce n'est pas trop tôt. » Justine poursuivit. « Et qu'est-ce que tu comptes faire? T'établir tout de suite, naturellement ?» Angèle détourna de sa tante le regard froid de sa noire prunelle et répondit « J'ai bien le temps. » Justine se récria. « Tu as bien le temps? Le temps de quoi ?»« D'attendre un peu, de voir ce qui se présentera. On ne sait jamais. Peut-être que je me placerai avant de m'établir. Je n'ai pas encore 20 ans, j'ai bien le temps. Alors il faut voir venir les choses. » Justine se leva sans répondre. La vérité, apportant l'explication de l'extraordinaire visite matinale, lui apparaissait tout à coup. Et la certitude était si suffocante qu'oubliant la jambe malade, elle s'était dressée d'un bond. Tout de suite, la douleur lui rappela son esclavage. Le visage contracté par la souffrance et aussi par le dépit de ne pas réussir cette fois à cacher tout à fait son mal, Justine, debout, les deux mains appuyées à la table, s'efforçait, avant de parler, de retrouver son ordinaire maîtrise d'elle-même. Vincent et Angèle, stupéfaits, la considéraient sans souffler mot. À la fin, bourrue, elle leur jeta. « Allez un peu vous promener dehors. Il faut que je lave par ici avant que François rentre. Quant au reste, on s'expliquera plus tard. C'est bon, on se reverra. » Vincent se leva. « Merci de l'offre, Justine, mais nous ne sommes pas venus avec l'idée de rester. J'avais affaire de ses côtés. Alors, en passant, on est entré. Nous reviendrons un dimanche ou l'autre. » Angèle se leva, alla prendre son chapeau et le remit prestement. Sous l'ombre du bord de paille, ses dures prunelles brillaient plus froidement. Contre son habitude, en pareille occurrence, Justine ne retint pas ses visiteurs. Elle dit « Ce que tu avais à faire par ici, François, ne valait pas le dérangement, tu aurais pu te l'épargner. C'est bon, puisque vous voulez vous en aller, au revoir. » Le père et la fille se hâtèrent de sortir, et par la fenêtre, Justine, sans quitter sa place, les regarda s'éloigner. Angèle avait retrouvé sa langue. Comme si elle se défendait d'une accusation injuste, elle parlait sans s'arrêter, tenant son profil à la peau brune, obstinément tournée vers son père. Au premier coude de la route, les deux silhouettes, toujours parlant et gesticulant, disparurent. Justine ne bougea pas. Et quand François et Joseph rentrèrent pour le dîner, ils la trouvèrent encore debout, les deux mains appuyées à la table, comme paralysée, devant un couvert incomplètement mis. Mais en un clin d'œil, le retard fut réparé et la soupe fumante remplit les assiettes. François demanda « Est-ce qu'Antoine n'est pas venu ce matin ?» Elle dit, le visage fermé « Pourquoi est-ce qu'il serait venu ?» En même temps, elle se souvint qu'Antoine devait passer le soir en ramenant Anna, mais elle n'en dit rien. Elle ne parla pas non plus de la visite écourtée de Vincent. Le repas s'acheva en silence. Quand il fut fini, François dit « Joseph restera à la maison. Il en a assez fait pour aujourd'hui. » Mais le petit garçon protesta « Non, j'irai, je ne suis pas fatigué. » Il était mince, débile, flexible comme un jonc. Et il y avait quelque chose d'ardent dans sa pâle petite figure, comme un désir brûlant des choses qui ne venaient pas et qui peut-être ne viendrait jamais. Justine demanda « Qu'est-ce qu'il a encore ?» Et parce qu'elle le voyait debout, sans fièvre ni rien qui le tourmentât visiblement dans sa santé, elle s'impatientait qu'il se plaignît toujours, tandis qu'elle souffrait, du matin au soir, sans trahir son mal. Joseph dit « Je n'ai rien. » Et préférant l'effort du travail en plein air à l'idée de rester seul au logis vis-à-vis de Justine, il suivit son père. Cependant, François, le voyant plus pâle qu'à l'ordinaire, le renvoya de bonne heure au logis. C'était un enfant de 10 ans, si maigrelé qu'il en paraissait à peine 8. Pendant les vacances d'été, son père l'emmenait au champ, mais le pays étant tout en pente et en roc, le travail était dur et l'enfant était de peu de secours. Quand il revint ce jour-là, il se glissa inaperçu dans le jardin. Il tenait dans sa main un moineau mort. Lorsqu'il l'avait ramassé sur la route, l'oiseau vivait encore, mais il était mort presque tout de suite. Il le tenait très délicatement, sans le serrer, et il le posa doucement sur l'allée, à côté du carreau où Justine cultivait ses choux. Espérant encore vaguement voir la bestiole revenir à la vie, il la considéra un moment de tout près, puis, à pas de loup pour ne pas éveiller l'attention de Justine, il alla chercher au fond du hangar un instrument pour creuser un trou. Il était au beau milieu de son œuvre quand Justine l'aperçut. Elle le regardait par la fenêtre ouverte, étonnée qu'il fût là, et ne comprenant pas ce qu'il faisait. Tout à coup, Joseph la vit. Effrayé, il interrompit son œuvre et murmura « Je fais une tombe pour l'oiseau. » Et il attendit l'algarade, parce qu'il avait fait son trou au beau milieu des choux, où la terre était molle. Mais Justine s'éloigna sans lui répondre. Elle venait d'apercevoir sur la route Antoine et Anna qui montaient. Et une angoisse l'étreignait, une crainte, imprécise mais très pénétrante, qui réveillait l'âpre déplaisir que venait de lui causer la visite de Vincent. Ce qu'Antoine avait à lui dire ne pouvait être qu'une chose désagréable à entendre, ou bien il l'aurait dit tout de suite. Qu'est-ce que c'était ? Elle vit les deux piétons s'arrêter devant la porte, mais ni l'un ni l'autre n'entra. Le prêtre, après une courte hésitation, se dirigea vers la cure, et Anna alla rejoindre son frère au jardin. Dès que Joseph l'aperçut, il courut à elle. C'était une très jolie fille, svelte, souple, d'apparence robuste. Les lèvres fraîches s'ouvraient sur des dents courtes et saines, et dans la figure mate, les yeux gris paraissaient très foncés. « Mon Joseph !» Et elle enleva le petit garçon dans ses bras. Il était si mince et si léger qu'elle l'emportait comme une plume. Et parce qu'elle le retrouvait enfin, elle lui murmurait tout l'arriéré de tendresse qui s'était amassé en elle pendant si longs jours de séparation. Ils s'assirent sur le tronc pourri, où autrefois, quand Joseph était tout petit et Anna déjà grandelette, ils avaient coutume de se tenir serrés l'un contre l'autre, les soirs où Justine venait se reposer sur le banc. Pendant son apprentissage, Anna revenait le samedi pour passer le dimanche à la maison. Tout de suite, elle demanda « Est-ce qu'on t'a fait de la peine cette semaine, mon Joseph ?» Au lieu de raconter comme à l'ordinaire les injustes bourrades de Justine, le petit garçon dit, le ton joyeux, « Tante Justine ne peut plus aller chercher l'eau à la fontaine !» Elle demanda « Pourquoi ?» Joseph haussa ses épaules grêles et répondit « C'est papa qui l'a dit !» Les yeux fixés sur sa sœur, l'enfant se tenait blotti contre elle. Il était si maigre qu'elle l'entourait de son bras avec la même précaution que Joseph avait eu naguère en tenant l'oiseau mort. Et elle s'inquiétait de cette maigreur et des yeux ardents du garçonnet, de ses grands yeux si pleins de choses qu'elle ne comprenait pas toujours. Elle lui caressait les cheveux de sa main douce d'ouvrière assise. Tout à coup, le petit garçon dit « Si tante Justine meurt, qui est-ce qui aura les prés ?» Anna eut un brusque sursaut de surprise, un choc qui la secoua de la tête aux pieds. Elle fut un instant à se remettre. Ayant toujours eu pour les débats d'intérêt et les questions d'argent le même instinctif dédain que son oncle Antoine, elle s'était attachée de toute son âme au seul être qui, dans la maison, ne s'inquiétait ni d'épargne ni de dépenses. La voix un peu étouffée, elle demanda « Qui t'a mis cette idée dans la tête ?» En même temps, sans attendre la réponse, elle se leva. Brusquement, les choses s'éclairaient. Joseph avait dû entendre sortir des lèvres du père des paroles qui n'étaient pas destinées à son oreille. Il les répétait telles quelles. Elle dit vite pour le distraire « Viens, allons faire un tour avant de rentrer. » Joseph la conduisit à la place où il avait enterré le moineau. Chemin faisant, il lui racontait comment l'oiseau était mort dans sa main. Puis il dit « Il était devenu tout froid. » Et sur la chétive figure, une ombre passa, un tout petit nuage. Anne saisit au vol la passagère expression de tristesse, de regret ou de pitié. Le poids qui lui était resté sur le cœur s'envola. Elle se pencha sur l'enfant, l'embrassa et dit « Mon Joseph !» Et en ce moment, le prêtre, revenant de la cure, passa à côté d'eux sans les voir. Pendant toute la journée, il avait appréhendé et reculé l'inévitable entrevue avec Justine. Désormais, l'épreuve ne pouvait plus se renvoyer. Il allait à son but, le cœur lourd, s'attristant des conflits et des difficultés que faisaient sans cesse naître autour de lui des passions qui lui restaient étrangères. Justine sursauta à l'entrée du prêtre. L'ayant vu passer devant la porte sans l'ouvrir, elle ne l'attendait plus. Les mains croisées sur les genoux, elle était assise, inactive, la jambe gauche étendue devant elle comme une jambe de bois. Très contrariée d'être surprise dans une posture qui pouvait faire soupçonner son mal, elle ramena le membre raidi, se leva sans avoir recours à aucun appui et dit froidement « Te voilà, je ne t'attendais plus ce soir. » Il murmura « Assieds-toi donc, Justine, tu peux à peine te tenir debout, ça se voit, et avec moi tu n'as pas besoin de feindre. » Elle se récria. « Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me tenir debout à présent? En voilà encore une idée !» Cependant, renseignée par ce début, et sûre qu'Antoine venait, comme Vincent l'avait fait le matin, voir où elle en était, elle se rassit, trop consciente que debout, elle ne pourrait pas, à la longue, dissimuler sa torture. Elle demanda le visage courroucé. « Eh bien, qu'est-ce que tu me veux ? Qu'est-ce que vous me voulez tous aujourd'hui ? Quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Alors, dis-la cette chose, puisque tu es venue pour cela. » « Oui, Justine, malgré la peine que cela me fait de te contrarier, je vais te parler franchement. J'ai hésité toute la journée, tant je redoutais de te sembler dur et sans pitié. Mais j'ai réfléchi, et c'est mon devoir. Il faut que je le fasse coûte que coûte. » Il s'assit, attacha sur Justine ses yeux bienveillants et poursuivit. « Justine, tu n'es plus en état de faire ton travail ici. Tu as beau cacher ta fatigue, on la voit. L'âge est venu, il vient pour tout le monde, et quand il vient, il est inutile de fermer les yeux pour ne pas le voir. Tu ne seras pas abandonnée, tu viendras vivre avec moi à la cure, où tu n'auras ni peine, ni soucis, ni dépense. » La figure sanguine de Justine s'était lentement décolorée. Les lèvres blanches s'enfonçaient sur les gencives dégarnies et la vieille figure hostile avait pris la teinte morte d'un cierge. Le prêtre eut peur. « Justine !» Elle dit sans le regarder « Quand je ne pourrai plus faire mon ouvrage, je saurai m'en aller sans que personne ait besoin de me le dire. » Et tandis que le sang remontait à ses pommettes et les empourprait d'un incarnat plus brûlant, elle ajouta froidement. « Que Vincent, qui n'a jamais pensé qu'à son intérêt, soit venu ce matin voir s'il ne pourrait pas fourrer Angèle ici à ma place, cela ne m'a pas étonné. Mais toi, qu'est-ce que cela peut te faire, que je reste ici ou que je m'en aille? Est-ce que je me plains, moi? Et si je me plains pas, qu'est-ce que cela peut te faire que je sois fatigué ou non ?» Le prêtre se leva vivement, alla jusqu'à la fenêtre et regarda dehors, luttant avec l'indignation qui lui montait aux lèvres. Ainsi, à peine renseigné, Vincent était accouru, non par sympathie pour la vieille créature qui se tuait à la tâche, mais pour tirer de l'événement un parti profitable. Un dégoût le prenait pour tous ses calculs, pour toutes ses misères, pour le néant de ces êtres qui étaient de sa chair et de son sang. Peu à peu, cependant, il parvint à refouler l'explosion de sa colère et il revint s'asseoir à côté de Justine. Sa mission auprès d'elle était loin d'être accomplie. Justine, immobile, les mains inertes sur le tablier graisseux, fixait devant elle un regard atone, si changé d'expression qu'Antoine eut pitié d'elle, de son âme mesquine, accrochée aux choses fugitives, quand aucune promesse concernant la terre n'existait plus pour elle. Il dit le ton bas. « Ce n'est pas moi, Justine, qui veux te forcer à quitter ton activité. C'est la nécessité qui t'y contraindra bientôt. Dans l'état où tu es, François ne peut plus te garder. Il a besoin d'une aide plus jeune et plus forte. Malgré toute ta bonne volonté, tu ne peux plus faire ce que tu faisais. » Il s'interrompit, hésita une seconde et ajouta « François m'a chargé de te dire que, pour la culture des prés, il ne te demandera que ce qui est strictement juste, rien de plus. Quant aux vivres et aux couverts, tu les auras chez moi pour rien. » Sentant venir le refus, il ajouta vivement « Justine, si ce n'est pas pour t'en servir aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux en faire de ton argent ?» Elle protesta aigrement. « Ce que je veux en faire ? Est-ce toi ou moi que ça regarde ?» Mais parce qu'Antoine était prêtre, elle réprima la rebuffade prête à jaillir et elle ajouta sourdement « Pour qui est-ce que je travaille ? Est-ce pour moi, par hasard ?» Antoine saisit très bien l'intention cachée dans les paroles. Ce n'était pas la première fois que Justine, pour justifier sa sordide avarice, mentionnait l'héritage qu'elle amassait pour la famille. Il laissa passer l'allusion sans la relever. C'était pour satisfaire la passion qui possédait tout son cœur, et non pour enrichir les siens que Justine travaillait. Il dit froidement « Si ce n'est pas pour toi, c'est donc pour l'amour de l'or. Il te tuera, Justine, si tu n'y prends garde. » Justine eut un court ricanement, sorte de sarcasme moqueur qu'elle avait toujours dans les rares occasions où quelqu'un osait toucher de trop près à son ardente préoccupation. Et elle s'écria, d'un ton bref, « L'amour de l'or, moi, est-ce que j'en ai pour l'aimer ? Où donc est-ce qu'il serait ?» Et reprenant haleine, elle ajouta, « Ce que je peux faire ou ne pas faire, qui est-ce qu'il sentirait mieux que moi ? Alors, François peut être tranquille, le travail ne chômera pas ici. Et toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur que je me tue à la peine. Il y en a plus d'un par ici qui ne dansera pas sur ma tombe, parce qu'il dormira sous la terre longtemps avant moi. » Le ton et les paroles choquèrent le prêtre. Il se leva. « Tout le monde doit se tenir prêt, Justine. » Mais une vieille comme toi, dans l'état où te voilà, la mort la guette de plus près. » Tout en parlant, il se dirigea vers la porte et sortit. Pour vaincre la résistance de Justine, il n'y avait plus que la violence. Jusque-là, il n'irait jamais. Déjà, il regrettait la dureté de sa dernière apostrophe et le mouvement d'impatience qu'il avait fait quitter si brusquement sa sœur. Tout en retournant lentement du côté de la cure, il songeait « Elle a bien soigné le père et la mère jusqu'à leur mort. Il y avait autrefois quelque chose de vivant dans son cœur, mais l'âpreté de sa passion a tout étouffé. Aujourd'hui, ce qu'elle fait, elle le fait par une sorte d'habitude instinctive où rien ne vit. » Ce soir-là, Justine alla se coucher de bonne heure. Elle avait gardé de la visite d'Antoine un sourd malaise d'esprit. Dès qu'elle fut seule dans sa chambre, à l'abri de tout regard scrutateur, elle respira. Assise à côté de son lit, les mains sur les genoux, les yeux fixés sur le sol, elle rêvait. Le ciel était gris, et contre les vitres, une brusque averse d'été se ruait. Justine n'entendait ni ne voyait rien. Elle pensait « Peut-être qu'il y aura du mieux cette fois. » Et elle s'efforçait d'étouffer l'appréhension de la prochaine minute, où, comme tous les autres soirs, elle allait débander et regarder la jambe malade, espérant y découvrir une amélioration. Enfin, elle se décida, arracha vivement la bande et regarda. Comme si la peau ne devait jamais revenir à cette place, l'incompréhensible blessure persistait. Creusant toujours, dans l'épaisseur des chairs gonflées, le même petit trou rouge. Elle se dit, les lèvres tremblantes, « Qu'est-ce que ça peut être ?» Et pour ne plus voir cette tache immuable, elle ramassa le chiffon qui traînait sur le plancher et de ses gros doigts raidis le tordit autour de la cheville. La sensation fraîche du linge calma instantanément la lancinante brûlure. Vite, pour profiter du répit inespéré, elle se coucha. Un sommeil, lourd comme la mort, s'abattit aussitôt sur elle. Elle ne sentit plus rien, pas même la délivrance momentanée du mal et de la fatigue. Ce fut une courte halte, puis la tête, aux cheveux rares, commença de s'agiter. De ci, de là, elle allait, pilonnant l'oreiller. Bientôt le chignon défait déroula sur le linge sa mèche rousse et chétive, et des crispations nerveuses de plus en plus fréquentes tiraillèrent les muscles du visage. Enfin les mâchoires remuèrent, mâchonnant des mots. Tout à coup, elles s'ouvrirent toutes grandes, comme pour crier, et Justine se dressa sur son séant. « Aïe ! Ouf ! Ouf ! Aïe !» Débarrassée des bandages et des couvertures, la jambe, exposée toute nue à l'air, continuait de brûler, et cette ardeur de tison réchauffait autour de la petite plaie la fraîcheur de l'atmosphère nocturne. Comprenant que toute espérance de sommeil avait fui pour le moment, Justine, les yeux grands ouverts, laissa se poursuivre la nuit. La lune s'était levée, et s'écartant devant elle, les grosses nuées de la nuit s'éparpillaient. On voyait l'astre lumineux circuler derrière des brumes allégées. Parfois, débarrassé de voile, il apparaissait tout rond au fond d'une échancrure. Et alors, comme un roi entouré d'une brillante cour, c'était lui qui restait immobile au milieu du cadre changeant des nuages. Justine songeait obstinément. « Qu'est-ce que c'est que ce mal ?» Et tout à coup, traversant son angoisse d'un trait plus aigu, les paroles d'Antoine lui revinrent à l'esprit. « Une vieille comme toi, dans l'état où te voilà, la mort la guette de plus près. » Jamais le prêtre ne lui avait parlé si durement. Pourquoi l'avait-il fait? La chambre se peupla d'effroi, et la grande inquiétude qu'elle chassait pendant l'activité écrasante de la journée, mais que ramenaient toujours les ombres mouvantes de la nuit, la glaça jusqu'aux moelles. Une vieille comme toi. Et elle eut peur du mystère que la religion ne parvenait pas à lui rendre tout à fait clair, de ce dépouillement absolu, de cet abandon définitif de tout ce qu'on avait pu amasser jour après jour avec tant de patience et de peine, de la mort. Sa foi, faite d'habitudes scrupuleuses, et sa constante observance des prescriptions de l'Église, n'étaient pas, en face de la brutale possibilité, un support suffisant. L'autre adoration qui avait secrètement régné dans son cœur le possédait encore tout entier. Et c'était celle-là qu'il faudrait quitter. Une vieille comme toi. La nuit s'écoula dans l'épouvante. Il lui semblait qu'un fantôme était dans la chambre, surveillant sa souffrance et prêt à fondre sur elle comme sur une proie sans défense. Cependant, avec les premières lueurs de l'aube, écrasée de fatigue, elle s'assoupit de nouveau lourdement. Il faisait grand jour quand elle se réveilla. Vite, sans prendre le temps de soigner ni même de regarder sa jambe, elle s'habilla à la hâte. Elle se dépêchait, nouant au hasard, autour de fortes hanches, les hardes graisseuses. À la grande clarté du jour, les spectres de la nuit s'évanouissaient, et, comme une marée fidèle, le courage lui revenait. Elle s'irritait contre François, qui était allé se plaindre d'elle derrière son dos. Contre Vincent, si prompt à la reléguer au rancard, comme une vieille guenille finie. Contre cette pérore d'Angèle, surtout, qui se figurait pouvoir, avec sa paresse et sa mollesse, la remplacer auprès de François. Quant à Antoine, elle écartait de lui sa pensée. François n'était pas levé quand elle descendit. Elle respira. Ce jour-là, au moins, elle ne verrait pas dans les yeux de son frère le silencieux mécontentement qu'elle y lisait si souvent depuis quelque temps. Quand elle eut allumé le feu, mis chauffé l'eau, tout préparé pour le déjeuner, elle s'assit lourdement. Ouf ! Depuis qu'elle allait et venait sans égard pour sa jambe, l'accalmie due au court repos de la nuit se dissipait. La crampe de ses muscles s'était réveillée. Elle sentait aussi revenir la brûlure ardente de la petite blessure. Les deux misères s'irritaient de la reprise hostile du travail. Le temps s'était remis au beau, mais l'ondée de la nuit avait rafraîchi les verdures. Justine voyait le soleil blanc monter dans un ciel tout pur. Elle voyait, au-delà de la cour, le jardin potager boire la lumière bienfaisante. Elle voyait le poulailler où les poules impatientes attendaient, trop longtemps, la liberté, la lumière, le grain. Pendant cette halte forcée, son esprit, arraché à la routine des heures, se reprenait à vagabonder. Et entre elle et ses choses familières, elle apercevait une distance qui se creusait comme un gouffre. Une vieille comme toi. Tout à coup, elle bondit sur ses pieds. Le pas de François faisait craquer l'escalier. Désolée que son François ne trouvât pas le café fumant sur la table, elle s'était élancée, oublieuse de son mal. Mais tout de suite, une douleur aiguë la cloua sur place. Les mains moites, aux 10 doigts écartés, s'appliquèrent au mur cherchant un support. Un nuage passait devant ses yeux, cachant tout, la chambre, la campagne, jusqu'au grand soleil éblouissant. Puis, le voile s'écarta, et brusquement, dans le silence matinal, un appel strident vibra. « Antoine ! Antoine !» Comme un torrent qui vient de briser sa digue, un flot de sang s'échappait de l'insignifiante petite blessure. « Antoine ! Antoine !» Les mains toujours collées au mur, Justine s'efforçait d'atteindre la porte. « Antoine ! Mon Dieu ! Pourquoi est-ce que tu ne viens pas ? Je te donnerai tout ! Tout ! Antoine ! J'irai vivre avec toi ! Je... » Brusquement, le corps épais se ploya, glissa le long du mur, s'affaissa lourdement sur le sol. Quand François entra, Justine avait la tête appuyée au mur, et elle était là, comme endormie, très paisible, baignée dans son sang. Chapitre 2. François dit « Il paraît que c'est le choc qui l'a tué. De voir tout ce sang s'en aller, ça lui a, comme qui dirait, arrêté le cœur. Alors moi, je suis content de l'avoir gardé jusqu'à la fin sans me plaindre. Ainsi, au moins, elle est morte libre d'inquiétude. » Antoine regardait son frère tandis qu'il parlait, mais ne voulant pas lui faire honte devant les autres, il se tut. Ils étaient là, une dizaine d'hommes, tous parents à divers degrés de Justine, et venus, les uns de la ville, les autres des villages environnants, pour conduire la défunte au cimetière. Dans un angle, Anna, Angèle et Joseph étaient assis à l'écart. Personne ne répondit à François. La présence d'Antoine jetait un froid. Pendant le trajet du cimetière à la maison, le prêtre n'avait pas ouvert la bouche. On le sentait très loin, absorbé par des soucis qui n'avaient point de place dans la pensée des autres. La mort soudaine de Justine avait en effet bouleversé le prêtre. Il se disait « Je n'ai pas su lui parler comme il fallait. » Et le dernier jour, pour la première fois de ma vie, je l'ai brusqué. Pour ne pas avoir l'air trop pressé de fuir, il était entré avec les autres. Il le regrettait déjà, se sentant frôlé de tout près par les intérêts mesquins qu'il haïssait et que sa présence seule empêchait de se manifester. Tout ce qu'il pourrait dire ne parviendrait pas à distraire ces hommes de leurs préoccupations. Il songeait malgré sa rudesse, Justine a toujours eu l'esprit de famille. Peut-être, se sentant malade, aura-t-elle en effet pensé à tout le monde. C'est cette espérance qui les a tous amenés ici. Avant d'être renseigné, personne ne bougera. Alors c'est moi qui m'en irai. » Il se dirigea vers la porte, jeta un prétexte et sortit. Personne n'essaya de le retenir. Et tout de suite, dans la petite assemblée muette, une détente se fit. Anna seule accompagna jusqu'au seuil, avec des yeux d'angoisse, la retraite du prêtre. Quand elle l'eut vu disparaître, elle serra plus fort contre elle le corps grêle de Joseph, comme si désormais elle se sentait seule à le défendre. Mais Angèle, soulagée, promena plus librement dans la chambre la clarté froide de sa sombre prunelle. Jamais plus tante Justine ne la rabrouait comme elle l'avait fait à leur dernière entrevue. Ce fut Vincent qui parla le premier. Dans les occasions graves, où il reprenait ses droits d'aîné, sa langue, si paresseuse d'ordinaire, se dégourdissait. Il dit, s'adressant à François, « Elle a dû faire de jolies économies pendant qu'elle était chez toi, ne dépensant rien. Où est-ce qu'elle les a envoyées? Tu le sais, toi ?»«
Je le sais. Et comment est-ce que je le saurais? Est-ce qu'elle me parlait de ses affaires ?» « Mais il y a des papiers là-haut, je n'y ai pas encore touché, on verra bien. »
Une voix prononça « S'il y a des papiers, il faut mettre les scellés. » François dit à Serbe « Est-ce que tu te défies de moi, gamin ?» L'interrupteur, un jeune homme de 25 ans à peine, mal bâti, avec des doigts tordus de rhumatisme, répondit tranquillement
« Ça se fait toujours ?»
Quelqu'un appuya. « Jean a raison, ça ne coûte rien, et on ne pourra pas te faire de misère plus tard, François. »
François se récria. « Des misères? Je voudrais bien savoir pourquoi. Qui donc de vous autres aurait fait pour Justine ce que j'ai fait? C'est bon, on les mettra, vous scellés. Mais si Jean s'imagine qu'il y gagnera quelque chose, il se trompe. Justine faire un testament. C'est comme si vous ne l'aviez jamais connue. »
Il reprit, mécontent. « Tout ce qu'elle laisse revient de droit à Vincent, Antoine et moi. Il n'y a rien à dire, la contre. » Se tournant vers Vincent, il ajouta « Est-ce que tu y tiens auprès, Vincent ?» Vincent dit froidement « Parbleu !» Anna se pencha sur Joseph. « Viens, mon Joseph, nous irons nous promener jusqu'à ce qu'ils aient fini. Qu'est-ce que cela nous fait, tout ça ?» Mais le petit garçon, le corps raidi, résista. Dans ses grands yeux sombres, une impatience ardente brillait. Il dit « Moi, je veux rester. » Anna se leva, le visage pâle. « Non, viens, je t'en prie, j'étouffe ici. Moi, il faut que je sorte. » Mais l'enfant persista. « Je veux savoir à qui iront les prêts. » Anna sortit dans la campagne. Elle allait devant elle au hasard. Le cœur si serré que ça l'étouffait. De temps en temps, elle murmurait « Joseph, mon petit Joseph !» Elle aimait cet enfant d'un amour de mère, si absolu qu'aucune idée de sacrifice ne l'effrayait. Le voyant chétif et souffreteux, elle s'était dit « Je resterai avec lui, il sera ma famille, nous vivrons ensemble. Je serai tout pour lui comme il sera tout pour moi. » Et à ceux qui avaient rôdé autour d'elle essayant de lui parler d'amour, elle avait dit non. Et voilà que tout à coup, dans ce petit être malingre qu'elle avait couvé de tendresse et de soins, elle découvrait une force plus grande que les liens de parenté et le dévouement du passé. Cela était dans son sang, et cela s'y était développé sans qu'elle s'en aperçût, tandis que l'affection qu'il avait pour elle n'était peut-être qu'un besoin de protection, simple habitude de vie qu'un souffle du dehors pouvait d'un jour à l'autre balayer. Sans définir nettement ces choses, elle les sentait confusément, et elle en souffrait, l'âme incertaine et bouleversée. C'était comme une vase obscure et profonde, où se noyaient tout à coup ses joies passées, présentes et à venir, une bourbe envahissante où sombraient jusqu'à ses plus lointaines espérances. Sans s'en apercevoir, elle avait repris le chemin du cimetière. Il était redevenu désert. Elle entra. La tombe de Justine n'était plus, au milieu de cette solitude, qu'un désordre de terre molle fraîchement remuée. Là, on avait descendu la bière. Tous les visages s'étaient penchés, sérieux, sur le trou béant. À présent, tous ceux qui étaient là naguère se disputaient aigrement l'argent de la morte. Et personne n'avait eu pour la laborieuse ouvrière un mot de regret ou de reconnaissance. Anna murmura
Tante Justine, à quoi cela vous a-t-il servi ? Et brusquement, elle revit la petite figure ardente de Joseph. Les larmes l'étouffèrent. Elle pleurait à gros sanglots, comme si lui aussi était mort, et qu'on l'eût mis sous la terre à côté de Justine. Mon Joseph ! Tout à coup, derrière elle, un pas fit craquer le gravier. Elle s'essuya vivement les yeux, attendant pour fuir que le visiteur importun se fût éloigné. Mais une main lui toucha l'épaule. « Anna !» Elle se retourna, montrant sa figure ravagée.
« Oncle Antoine !»
Il la regardait avec surprise, ne comprenant rien à l'acuité de ce chagrin. Anna n'avait pas dans le cœur l'aiguillon d'un remords, ni le regret d'une brusquerie impatiente. Il demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle balbutia « Joseph n'a pas voulu venir avec moi. Et voilà qu'il est pris par cette fièvre-là. Je ne pourrai plus l'aimer. Et alors, qu'est-ce que je deviendrai ?» Le prêtre comprit tout de suite. Anna, qu'il avait toujours mise à part des autres membres de la famille, se trouvait entraînée dans le conflit misérable. Elle se débattait comme lui dans l'impuissance et le dégoût. Laissant crever jusqu'au fond sa peine, Anna continua. Il disait « Je veux savoir à qui iront les prés. » Mon petit Joseph, et sa figure était crispée d'impatience. Il tremblait. Je n'ai plus pu le voir ainsi. Je lui ai dit « Joseph, viens, qu'est-ce que cela nous fait tout ça ?» Mais il a dit « Moi, je veux rester. » Sous l'épaisse crinière des cheveux grisonnants, la face toujours pâle du prêtre était aussi blême que le masque d'un mort. Il murmura « Cet enfant ?» Ses yeux s'en allèrent errer au loin. Mais brusquement, ils revinrent fixer l'endroit où Justine, dépouillée de ses biens et déjà oubliée, dormait, impassible et indifférente. Enfin, ramenant sa prunelle sur Anna, il dit « Ce qu'il faut, c'est arracher des âmes au mal. Moi, je n'ai pas su. Non, je n'ai pas su lui parler comme il aurait fallu. Le dernier jour, par impatience et colère, je l'ai brusqué. Et à présent, je ne peux plus rien pour elle. Comprends-tu ? » Une détresse crispa ses traits aux angles réguliers, puis il ajouta « À toi, Dieu te le rendra. Retourne auprès de Joseph, Anna. Va !» Sans répondre, la jeune fille s'éloigna rapidement. Elle marchait de plus en plus vite, regrettant d'avoir fui lâchement en abandonnant Joseph au milieu de l'âpre lutte. Elle se disait « Oui, je le reprendrai, je le guérirai. » Les paroles du prêtre lui avaient rendu tout son courage. Mais aux approches de la maison, elle entendit le bruit de la discussion. Les voix vibraient très hautes, dominées par le timbre aigu de Vincent. Elle s'arrêta net. Entrer au milieu de cette dispute et revoir sur le visage pâlot de Joseph l'expression ardente qui le défigurait, elle ne pouvait pas encore. Elle s'appuya au mur, et ses lèvres murmurèrent « Joseph ! Joseph !» À ce mot jeté sourdement au vent, l'enfant surgit de derrière un buisson. Avec un cri, il s'élança et se blottit contre elle. Il se cramponnait à son cou en sanglotant. Elle s'écria « Joseph, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils t'ont donc fait ?» Le souffle coupé de spasmes, l'enfant murmura « Papa, l'oncle Vincent, papa !» Elle l'emporta dans leur retraite et l'assit sur ses genoux. « Joseph, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Dis-le-moi, mon petit Joseph !» Et comme l'enfant se taisait, elle l'interrogea de tout près. La voix jeune, frémissante d'une subite angoisse. Est-ce à cause des prêts ? Dis. Joseph retrouva brusquement la voix. Il annonna. L'oncle Vincent disait Je suis l'aîné. Et papa répondait C'est moi qui ai porté le fardeau jusqu'à la fin. Il devenait tout rouge et il criait toujours plus fort.
Et parce que tu n'étais pas là, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai crié. Alors papa m'a pris par le bras et m'a dit « Hors d'ici, pleurnicheur !» Et il m'a poussé dans la cour. Et en me regardant, il avait l'air méchant. Il se reprit à pleurer. Et comme Anna, étouffée de joie, ne disait rien, il se serra plus fort contre elle et ajouta, résolu, « Moi, quand je serai grand, je ferai comme l'oncle Antoine. »